réseau Cogeco, c'est
Parlons-nous.
Parlons-nous.
Votre tribune pour discuter des sujets du jour. Voici Valérie Leboeuf.
Bon jeudi, bienvenue à Parlons-nous, un sujet qui risque d'être polarisant ce soir, on va dire ça comme ça. On va discuter de notre belle jeunesse. Il y a une étude britannique qui démontre que 87% des jeunes de la génération Z, en fait, on parle des jeunes nés entre 1995 et 2010 qui ne se sont pas présentés à leur première journée au travail. Et la question qu'on vous pose, quelle est votre expérience avec les jeunes au travail? Parce que c'est en plein dans la période. Moi, je sais que ma fille a fait des applications d'ailleurs pour la période estivale. Elle a 16 ans. Elle a déjà travaillé dans une épicerie. Mais là, pour la fin de l'année scolaire, tu sais, le secondaire 5, c'est important. Puis tout ça, j'ai dit, on va prendre ça relax, on reprendra ça cet été. Mais des fois, c'est le regard que les adultes portent sur notre belle jeunesse. Ça va être intéressant de vous entendre.
J'ai hâte d'entendre notamment Annie Boilard, qui est souvent avec nous pour parler du domaine du travail. Savoir, est-ce que c'est un phénomène européen? Est-ce que c'est un phénomène de partout sur la planète? C'est presque 9 sur 10 qui se présentent pas à leur première journée de travail. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas fiers? Est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé autre chose? Je me demande, parce que je te sors un sondage Angus Reid d'avril dernier.
Okay.
Sondage qu'il y a un an, on a sondé 1000 Canadiens, 250 Québécois. On dit au sommet des priorités, ce que les jeunes cherchent, c'est l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ça, c'est au sommet. Ils sont même prêts, là. On dit que c'est 51% qui sont prêts à faire un compromis sur le salaire pour avoir une meilleure qualité de vie.
Okay.
En deuxième, la transparence avec l'employeur. Puis je suis surpris parce que je pensais qu'ils voulaient tous du télétravail. Semblerait que non, c'est 21% des répondants de la génération Z qui trouvent que le travail dans un bureau s'est dépassé. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une grande proportion qui est quand même prête à revenir en présentiel. Quand même. Mais là, de savoir que c'est 87% qui se présentent pas la première journée. Les employeurs,
c'est la première journée.
Appelez-nous. Oui. Appelez-nous, on veut vous entendre tantôt.
Parce qu'on
les jeunes aussi, les aides, appelez-nous tantôt.
De la première journée, mais il y a également, quand il s'agit de ton entrevue d'embauche, il y a 83% des jeunes britanniques qui ne se présentaient pas non plus. C'est assez élevé, là.
Ben, c'est très... Écoute... On le disait tantôt, c'est presque 9 sur 10.
Ouais.
Tu sais, c'est pas une minorité.
Là. Non. Puis il y a certainement des employeurs qui nous écoutent, comme tu le dis, qui doivent se dire, hey, encore une fois, là, bon, j'ai un employé que j'ai formé qui a été là pendant 3 mois, puis là, ça s'est à recommencer. Puis ça doit être comme ça. Il doit avoir un roulement de personnel dans plusieurs.
Et déjà, pour avoir grandi dans une entreprise familiale, déjà à l'époque, il y avait quand même une bonne proportion, puis c'était pas juste les jeunes, là, mais de gens qui se présentaient même pas à l'entrevue.
Ah oui.
Tu sais, déjà, tu confirmes, vas-tu être là demain? Oui, je vais être là demain, il n'y a pas de problème, puis la personne ne se présente pas. Puis là, ben, on le disait, c'est la première journée au travail, donc on prend pour acquis que cette personne-là a été formée.
On va évidemment prendre vos appels, parce que là, je vois que le téléphone commence à sonner. On va prendre vos appels véritablement aux alentours de 18h48. Soyez patients. Mais d'abord, ce qui a marqué cette journée du 18 avril, le gouvernement du Québec qui va imiter le fédéral, augmenter lui aussi les impositions sur les gains en capital. Ça va avoir pris finalement seulement 48 heures au gouvernement Legault pour emboîter le pas au gouvernement Trudeau sur cette question. Le ministre des Finances, Éric Girard, a donc choisi de faire passer le taux d'imposition de 50 à 66% pour les gains en capital qui dépasse 250 000 $.
Cette décision devrait permettre au Trésor public du Québec d'engranger 3 milliards de plus sur 5 ans. Et mardi, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, qui avait annoncé la même mesure qui, à l'échelle du pays, devrait rapporter près de 20 milliards de dollars sur 5 ans.
Il y a Hydro-Québec et le Conseil des Mohawks de Kanawagé qui confirment leur partenariat dans le projet d'exportation d'électricité vers l'État New York. Cette communauté autochtone de la rive sud de Montréal va détenir une participation minoritaire d'au moins 10% dans la ligne d'interconnexion RTL New York.
Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, était présent à l'annonce.
On s'adapte vraiment aux besoins de la communauté. On prend le temps de regarder de quelle façon on peut travailler ensemble, contribuer. Et avec Hydro-Québec, le genre d'approche qui est préconisé aujourd'hui, c'est pas une approche mur à mur. Je pense que c'est important pour les communautés de bien comprendre. On n'est pas dans cette dynamique-là, mais pas du tout.
Le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, a d'ailleurs parlé du rendement attendu pour la communauté.
C'est à peu près 8,2%. Ça, c'est le niveau du rendement que le Conseil de Kanawagé va réaliser sur leur investissement, soit à 10% ou soit à un niveau plus élevé.
Les automobilistes qui ont eu un choc ce matin, le prix de l'essence à la pompe a bondi de 20 cents le litre. Et Maxime, moi, hier soir, quand j'ai quitté ici, bon, j'avais pas beaucoup d'essence, mais je me suis dit, ah, ça me tente pas, je vais attendre à demain matin.
Ben la surprise, toi, mauvaise surprise. Chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon qui a rappelé que le gouvernement a commandé un rapport sur la concurrence dans le domaine des pétrolières qui n'est toujours pas rendu public.
Le ministre de l'Économie a commandé un rapport sur la fixation des prix, sur comment on peut encadrer le cartel de l'essence, qui coûte une fortune aux Québécoises et aux Québécois. Il ne l'a pas lu, il me l'a dit en crédit, le rapport est sur son bureau. Est-ce que vous pouvez lire le rapport? Est-ce que vous pouvez le rendre public? C'est la même question trois fois.
Utilisez le mot « cartel ». Quand même! Réaction du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon.
Le rapport a été reçu il y a quelques semaines. La procédure est que les fonctionnaires doivent prendre état du rapport. Je vais avoir un rapport la semaine prochaine. Je vais en discuter avec les autres et on va divulguer en temps et lieu ce qui va se faire.
Il y a Québec solidaire qui dénonce le recours à du personnel d'agences privées dans les centres jeunesse. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la PTS, qui parle même d'un glissement vers un modèle carcéral.
Cette accusation a été relayée par le député Guillaume Clich-Simard, dis-je bien, de Québec solidaire, mais le ministre responsable Lionel Carman ne l'a pas pris du tout.
C'est la vision du gouvernement pour nos jeunes plus vulnérables, ça, Madame la Présidente? La prison? Vraiment?
Sincèrement, je vais répondre à ça. Je peux pas répondre à ça, Madame la Présidente. Un modèle carcéral. Alors moi, je suis sorti du réseau de la santé pour implanter un modèle carcéral. Voyons donc. Ben voyons donc. C'est épouvantable.
Maintenant, arrestation de 14 individus dans la région de Montréal pour des fraudes de type grands-parents après une vaste opération policière qui a impliqué plusieurs corps policiers au Québec et en Ontario. Les suspects liés au crime organisé italien prétendaient être des policiers ou des avocats. Ils réclamaient de l'argent à des personnes âgées pour la remise en liberté sous caution d'un membre de leur famille.
Ils auraient dérobé au moins 2 millions de dollars depuis 2 ans à des personnes vulnérables. Le directeur général adjoint aux enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, Benoît Dubé.
Ils ciblaient le victime souvent par tout ce qu'on peut avoir via l'Internet. Il y a beaucoup de renseignements qui se trouvent là. Puis à partir de ce moment-là, ils utilisaient vraiment les informations trouvées pour convaincre leur victime qu'il y avait des enjeux avec leurs petits-enfants. Donc, ils utilisaient beaucoup au niveau des émotions. Il y avait une certaine pression qui était mise.
Alors que l'Assemblée nationale se penche sur des façons d'améliorer la performance du Québec pour les dons d'organes et de transplantation, il y a un nouveau sondage léger qui révèle que près de 80% des Québécois sont favorables à l'adoption d'une loi pour y arriver.
La directrice générale de Transplant Québec, Martine Bouchard, a fait valoir que le Québec est l'une des seules provinces canadiennes qui n'a pas de loi sur le don d'organes et la transplantation. Elle se réjouit des résultats du sondage qui montre l'appui de la population.
Ça démontre l'appui significatif de la population à l'adoption d'une loi. Ça fait aussi écho aux besoins concrets qui sont vécus sur le terrain, puis pour nous, c'est très important. Puis ça donne aux parlementaires les coups des franges pour poursuivre le travail qui est amorcé, puis pour procéder rapidement à l'adoption d'une loi pour sauver plus de vies. Effectivement, on est très contents.
Le Parti libéral du Québec est attaqué sur ses pratiques de financement. En effet, dans une infolettre envoyée aux membres, le PLQ invitait les agriculteurs en crise à contribuer à la caisse du parti.
Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, en a profité pour rappeler que le gouvernement libéral précédent avait effectué des compressions en agriculture.
Parce qu'on a fait, là, d'un bord, le MAPAC a été définancé comme aucun ministère pendant qu'il était au pouvoir. Puis là, aujourd'hui, ils servent des agriculteurs, ils servent des difficultés de nos agriculteurs pour engraisser le caisse électorale. Ça, là, que mon collègue se lève et soit même pas capable de s'excuser de faire ça, j'ai de la misère avec ça, Madame la Présidente.
Et c'est ce soir, en fait, l'avant-première du film sur l'histoire des expos qui s'intitule Nos amours.
Le cinéaste et amateur de baseball, Robbie Hart, parce que je vais aller le voir.
Il nous
parle de ce projet qui s'est échelonné sur une dizaine d'années.
Ben, le film opère à deux niveaux. Le film opère au niveau de l'effort de ramener les expos à Montréal à partir de 2012 et la conférence de presse de Warren Cromartie jusqu'à 2022 où MLB a mis fin au projet Bill Sauer, tu sais, avec Tampa. Et en même temps, le film est l'histoire biblique des expos. Donc, tous les grands moments des expos à partir de 69, jusqu'à la fin, sont racontés dans le film.
Le film sortira en salle, c'est le 3 mai prochain. Nanana, nanana.
Et on va accueillir Mario Langlois qui va peut-être aller voir le film le 3 mai prochain en salle, Nos amours, Mario.
Oui, surtout qu'en plus, semble-t-il que j'y apparais dans le film.
Oui,
je suis pas surpris. d'une certaine façon parce que Robbie avait, qui est le frère de Corey, si vous saviez pas, Robbie est le frère de Corey Hart et c'est un réalisateur qui a une belle carrière dans son domaine, qui a réalisé plusieurs films d'ailleurs, mais il avait réalisé un film à l'époque vers les années d'agonie des Expos de Montréal et on s'était rapproché parce qu'on était tous les deux sensibles à ce qui se passait avec les Expos, puis à un moment donné, j'avais donné comme accès à mon studio, à notre studio dans le temps de CKC 730 au coin Peel-Sainte-Catherine, alors que je recevais David Sansom en studio pour lui poser des questions. Ça avait brassé un petit peu, puis je pense que il y a un extrait de cette conversation-là qui a résisté aux années, qui se retrouve, m'a-t-on dit, parce que je ne l'ai pas vu encore dans ce film-là. Mais c'est drôle, une anecdote, à un moment donné, j'étais en tournoi de hockey à Lake Placid aux États-Unis, puis il y a beaucoup de tournois là-bas, puis il y a bien des années de ça, puis... On n'est pas loin du Canada quand on est à Lake Placid, mais à un moment donné, entre deux matchs, on joue le matin, on fait sécher notre stock de hockey, puis on joue le soir, puis en après-midi, on va se reposer à l'hôtel. À un moment donné, les gars disent, Mario, t'es à TV, à PBS, tu sais, j'étais bien surpris d'être à PBS. C'était le moment où, bref, le film avait été diffusé aux États-Unis également, sur PBS, qui est le réseau public américain. Ouais, ouais, ouais. Alors, fin de la parenthèse, mais j'ai très, très hâte de voir, donc, le film que Robbie nous propose d'ailleurs, puis on va le recevoir très certainement à l'émission dans les prochains jours. J'ai bien hâte de le retrouver. Par ailleurs, ben ce soir, tu sais, dans le monde, tu sais, le hockey, c'est comme le sport, quoi, évidemment, qu'au Québec et au Canada qui résonne le plus. Puis les Coyotes de l'Arizona sont dirigés par un Québécois. Mmh. C'est maintenant confirmé qu'il quitte l'Arizona.
Ben oui.
Et André Tourigny sera avec nous à 20h15, au lendemain du dernier match de l'histoire de la concession. En tout cas, dans cet épisode-là, la Ligue est ouverte à y retourner, mais ça va être une autre franchise. Ça va être une autre équipe carrément. C'est comme... C'est ça. Si jamais le hockey revit là-bas, le hockey professionnel, ça va être un autre projet avec un aréna. Mais bref,
les Browns à l'époque.
Ouais, j'avais 1000 exemples, quelques exemples en tête d'équipes où il y a des marchés qui ont récupéré un club, mais sans que ça soit. C'est comme si nous autres, on avait un club de baseball, mais c'est pas les Nationals de Washington qui reviendraient nécessairement. Mmh. Tu sais, c'est exemple.
Mais bon. Tu récupères l'histoire.
Ouais, c'est ça. Fait que donc André réagit avec nous à 20h15. On a nos spécialistes, bien sûr, dont Antoine Roussel qui sera avec nous parce qu'on va jeter un premier regard sur les séries. On va aussi aller du bilan avec Daniel Brière. Daniel, qui est le directeur général des Flyers de Philadelphie, ça a brassé pas mal dans leur fin de saison. Leur entraîneur a fait les manchettes souvent, mais au-delà de brasser, c'est pas que ça a brassé, mais tu sais, ça a été tumultueux et ils ont échappé, puis ils ont manqué des séries, puis d'une situation très particulière. Là, je veux pas être trop long dans l'explication, mais je vous invite à être à l'antenne ce soir. Mais les Flyers, s'ils voulaient faire les séries, il fallait qu'ils gagnent leur dernier match en temps réglementaire. Fait qu'ils ont enlevé leur gardien de but. Oui. Mais ça a permis à Washington de marquer un filet désert. Ce faisant, Washington s'est qualifié.
Oh.
Fait que c'est vraiment bizarre. Ouais. C'est comme si tu sers sur un plateau d'argent les séries éliminatoires à une autre équipe. Bref, donc Daniel sera avec nous, entre autres, plusieurs sujets. La tribune téléphonique. Et hier, c'était assez bizarre, pareil. Je vous dis ça comme ça. Mais, tu sais, le Canadien est éliminé pour une troisième année de suite. Puis, à part l'épisode de la finale de la Coupe Stanley, qui a quand même été très, très intéressant, ça avait été des années difficile également.
Oui.
Et hier, tu sais, je demandais aux gens, quel est votre indice? Partagez-vous le même enthousiasme qui se dégage des joueurs de l'organisation, du coach, des dirigeants? Et j'étais obligé d'ajouter les partisans dans le Centre Bell, parce que quand t'es dans... Il y en a peut-être qui grimacent là, à la maison de loin, de le Canadien perd tout le temps, pis t'es pas. Mais les gens qui vont dans le building, eux autres, on dirait qu'ils étaient en liège. J'ai dit, comme hier, je te disais, on riait, l'espoir est dans le plafond. Fait que j'ai testé ça en espèce de sondage tribune téléphonique. Écoute, j'ai fini le show à minuit moins 5 avec la balade des gens heureux.
Pour vrai?
Non, mais pour vrai,
c'était presque unanime.
Ouais, les gens, en tout cas, il y en a toujours là qui regardent ça autrement, mais c'est assez étonnant pour les gens qui pensaient que ça serait jamais possible à Montréal. Les gens, l'espoir est dans le plafond. C'était ça le titre. Okay. C'était encore la ligne validée hier en tribune téléphonique.
Ben tant mieux. Il y a Roland qui nous écrit, Mario, qui dit que à propos des expos dont tu parlais tantôt, le film Nos Amours, si ça date de CKAC, à peu près les images de toi.
Oui.
Donc, c'était dans le temps où tu étais une jeunesse du printemps.
Oui, exactement.
C'est ça, hein?
Écoute, j'espère que je suis encore une jeunesse du printemps.
Ben oui.
Avec des enfants qui nous gardent jeunes, ça dit que...
Ben d'ailleurs, la question de ce soir, c'est quoi ton expérience, toi, avec les jeunes au travail? T'en as eu des jeunes en stage? Il y a Thomas qui est avec toi, justement, cette semaine.
Expérience de jeunes au travail, ben moi premièrement, je suis habitué, tu sais, j'ai des jeunes, ben jeunes maintenant ados, là, bientôt adultes, mais... Écoute, au travail des dernières années, tu sais, à part des stagiaires, c'est plutôt d'interviewer des jeunes, je te dirais. Je suis plus dans une position de parler à des jeunes athlètes très, très souvent.
Mm-hmm.
Quand on a l'occasion puis le privilège d'accueillir, j'aime ça. Tu sais, c'est le fun d'être entouré de gens de toute génération. Moi,
c'est vrai.
Moi, j'aime ça parler, tu sais.